j'ai des croquis, j'ai des dessins partout. Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai hésité. Hier, je savais à peu près ce que je voulais faire. J'avais préparé mes dessins, des trucs, des documents, des photos de tableaux. Des... J'ai tout plié. J'ai dit non, je vais faire autre chose. Et ce matin, je n'ai pas encore trouvé. Alors. Peut-être demain.
Donc on sait. Est en...
Mais vous savez, ça, j'ai une profession tellement formidable. Toute ma vie, jamais personne ne m'a dit à aucun moment de ma vie ce que je devrais faire. Et je ne pensais pas y arriver, enfin...
Comme elle me hante, comme en moi elle chante, comme elle est en couleur, la liberté. Comme je la regarde, elle vient ou s'attarde, elle vit ou elle meurt, la liberté. Offre-moi ta bouche, que les mots je les touche, que j'apprenne par toi à mieux aimer. Que j'apprenne à vivre les choses qui délivrent, que je touche du doigt la liberté. Comme elle est jolie, comme elle fait sa vie, comme elle a de l'amour, la liberté. Quand elle ouvre ses ailes, quand elle se fait jour, la liberté. Offre ton visage, quand tes yeux je voyage, que j'apprenne par toi à voyager. Que j'apprenne à rire du meilleur. Découvre en moi la liberté. Comme elle me hante, comme en moi elle chante, comme elle est en couleur, la liberté. Comme je la regarde, elle vient ou s'attarde, elle vit. Elle meurt, la liberté. Comme je la regarde, elle vient ou s'attarde, elle vit ou elle meurt, la liberté.
Pierre Bichet est un peintre contemporain né en 1928. Avec une œuvre de plus de 60 ans de peinture, de sérigraphie et de plein d'autres activités culturelles et sportives, montagne, vulcanologie, spéléologie, archéologie, etc. Un peintre très attaché à sa région, la Franche-Comté, au point qu'il a renoncé à une renommée plus large. Nous lui avons consacré au fil des années une dizaine d'émissions autour de son travail de peintre, de son expérience de résistant, de ses autres activités et de sa vision de la vie en général. Il a disparu le 18 février 2008, il y a donc maintenant plus de 4 ans. Et il y a comme ça des disparitions auxquelles on ne s'habitue pas. On vit avec, mais on ne s'en remet jamais. Le 9 octobre 2004, nous l'avions rencontré sur le lieu d'une exposition personnelle un peu particulière qu'il avait organisée à Pontarlier, dans la chapelle des Annonciades. Ce lieu qui recevait l'exposition annuelle éponyme d'art plastique régional et dont il avait présidé à la destinée durant plusieurs décennies. Il était alors pour nous hors de question que 3 ans et demi plus tard il ne soit plus parmi nous. Or, cette exposition s'est révélée son exposition ultime. Cet enregistrement devenu posthume, nous l'avons conservé 8 ans durant, le réservant pour un événement exceptionnel dans sa région qui ne s'est pas produit. aussi, nous avons décidé de vous le proposer ce soir dans cette émission que nous lui consacrons en hommage à sa personne et à son œuvre. Pierre Bichet, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux une nouvelle fois de vous rencontrer à l'occasion d'une exposition un peu particulière, puisque là, il n'y a que vous qui exposez, et puis c'est une espèce de rétrospective de 50-50 peintures.
C'est un peu une exposition sentimentale, puisque j'expose toutes les grandes toiles que j'ai pu mettre de côté, et puis rien n'est à vendre. C'est une exposition bénévole et gratuite, aussi bien pour les visiteurs que pour moi. C'est pas un but mercantile, quoi. C'est une façon de montrer un certain parcours de ma vie à mes amis de ma ville, quoi. Puisque cette ville m'a beaucoup inspiré, ce pays m'a beaucoup inspiré, il est normal que je montre les images que j'en ai faites.
Et le fait qu'on ait là 55 années de votre travail, oui. C'est un parti pris aussi?
Non, c'est pas ça, je sais plus. Moi j'ai du mal dans tous mes souvenirs et même dans mes documents. J'ai beaucoup travaillé toute ma vie, alors évidemment les années se sont empilées, mais j'ai eu la précaution quand même de temps en temps devant. Quand je vendais des tableaux, j'ai gagné de l'argent, et puis après je dépensais l'argent et j'avais plus le tableau, alors ça m'a un peu affecté quelquefois, si bien que j'ai décidé d'en mettre de côté, et je ne les avais jamais ressorties, ces toiles-là. Elles sont empilées chez moi parce que j'ai des enfants et petits-enfants, et que je veillais à leur laisser quand même quelque chose plus tard.
Est-ce qu'on peut penser que vous préférez celle-là à celle que vous avez vendue, ou c'est simplement...
Non, celles que j'ai vendues sont parties, enfin, elles sont parties, je n'ai pas ni à les regretter. J'en ai le souvenir, puisque j'ai des photos, j'ai des dessins, j'ai des documents, mais enfin, elles ne sont plus à moi, c'est-à-dire que celles-là restent les miennes. Mm-hmm. Et je les sors de leur réserve, elles sont empilées chez moi verticalement dans une chambre qui me sert un peu de caverne d'Ali Baba, et puis je les sors, c'est la première fois que j'en sors autant que ça, et des grands formats, et ça me paraît plus important de les montrer aux gens qui me connaissent ici, que de les exposer dans une grande galerie à Paris ou ailleurs, quoi. Pour moi c'est sentimental. Quoi.
On est là dans l'entrée, vous avez choisi de mettre en dehors de la chapelle des Annonciades trois toiles.
Mais j'ai une entrée, j'ai d'abord installé l'intérieur de la chapelle et puis il me restait des grandes toiles. Alors, j'ai pu faire mettre un éclairage dans l'entrée, puis j'ai exposé ces toiles.
Alors 49, c'est la plus ancienne, je crois. Enfin, il y en a deux de 49.
Oui, c'est ça.
Hein? Donc là, votre passion de la montagne. À l'époque, submergeait celle des paysages.
Quoi. Oui, j'étais jeune, je sortais de l'école des Beaux-Arts à Paris, et puis j'avais encore mon atelier à Paris, alors j'étais forcément hanté beaucoup plus à Paris qu'ici, par la nature, par la montagne, par les saisons, et puis je faisais beaucoup de montagne. Alors, j'ai représenté comme ça des amateurs de grimpe, des alpinistes.
Dans un style qui... c'est pas une photographie, hein, c'est pas avec déjà les formes telles que vous les travaillez.
C'est pas un document sur l'escalade. C'est un regard un peu sentimental sur une des activités que j'ai pratiquées et où j'ai gardé beaucoup de souvenirs des paysages montagneux, des amis qui ont fait de la montagne avec moi. Et voilà, je suis très marqué par les cadres de vie, moi, que ce soit de la montagne, que ce soit des volcans, que ce soit des paysages de mon pays.
Celle-là, au niveau peinture, j'allais dire, bon, c'est vos débuts un peu, il y a déjà votre patte, mais enfin, ayant parcouru l'exposition, je pense que 10 ans après, à partir de 58, vous aviez trouvé votre style qui ne bougerait plus.
J'étais pas encore tellement hésitant, parce que, en réalité, cette grande toile-là, j'en avais fait une esquisse. J'en avais fait une esquisse quand j'étais encore à l'école des Beaux-Arts et je l'avais un peu mis de côté sans trop y croire. Puis, j'ai revu un jour, je dis, elle mériterait peut-être de faire une toile plus grande. Puis j'aime bien faire des grands formats parce que, comment je pourrais expliquer, c'est difficile d'expliquer aux gens, mais quand on est peintre, je fais des tableaux. Bon. Alors j'ai des tableaux de plusieurs échelles. Si je suis assis à une table de dessin, j'ai les petits croquis qui sont à l'échelle de mes doigts et de ma main. Si je suis debout, que je peins avec un pinceau, ça me donne un autre format plus grand. Et ça, c'est ce qu'on appelle un format marine. C'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est ce qui correspond à l'ampleur de mon bras quand je peins debout. Quand je peins des grandes colles comme ça, je les peins debout. Alors j'ai une espèce de déambulation qui m'amène à des limites si je ne bouge pas de place. Quoi. Mm-hmm. Alors c'est ça qui m'inspire.
Ce format marine, c'est 1m40
Je fais souvent des formats marines. Le format marine, c'est 128-97. C'est une forme très allongé. Ah.
À côté, il y a une toile de Besançon, La Boucle.
C'est un sentimental aussi parce que j'aime beaucoup Besançon. J'y ai vécu, j'ai fait mes études à Besançon. J'aime beaucoup Besançon, j'ai fait des peintures. Et la vue de cette ville étrange. D'ailleurs, au-dessus de cette toile, il y a la définition de Besançon par Jules César. Je ne sais pas, je vais demander l'autorisation, je ne vais pas demander. Mais j'ai relevé dans les mémoires de Jules César, il décrit très bien la capitale. Elle est encerclée par une rivière qui est presque circulaire, et elle est enfermée dans etc., etc. Et c'est vrai, c'est une belle définition de cette ville un peu étonnante par sa forme géographique.
Alors celle-là, c'est de 87, vous avez une autre Besançon, je ne sais plus quelle année
oui,
elle est.
Oui, un peu plus tard, c'est plus récent, mais enfin,
deux visions
j'aime beaucoup cette ville. Vous savez, moi je me sens un petit peu en tant que peintre, j'ai une espèce de capital sentimental géographique. C'est mes impressions d'enfance, ça j'ai habité à Besançon quand je faisais mes études, j'ai fait mes études en grande partie à Besançon, après j'ai été étudiant à Besançon, et ça me laisse un souvenir un peu... très amicale de cette cité que je trouve très belle.
Ma surprise, c'est que je pensais que ces toiles de Besançon, en particulier celle qui est dans la chapelle, vous l'auriez vendue à la mairie de Besançon. Que je veux dire, ils en ont d'autres
j'ai pas cherché à leur vendre.
Et ils vous ont jamais sollicité.
Je ne sais même pas s'ils l'ont vu. Elle n'a jamais été exposée au musée de Besançon. Mm-hmm. Mais ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pas... Mon but, c'est pas de vendre. Si j'avais voulu gagner de l'argent, je me serais fait banquier ou je ne sais pas.
Si tous les crayons que l'on vend à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully,
et si toutes les plumes avaient verlaine ou bec, et chacun sa chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune.
Quelques thunes, deux bouquets, trois chansons et la lune.
Si tu rêves, ta vie brève passera comme passent les rêves.
La fortune, quelques thunes, et de quoi faire briller cette lune. Si tout passe, si tout casse, si tout lasse,
passe, passe. Si tous les vauriens qui ne valent rien à Paris ne valaient qu'un refrain de Villon ou de qui.
Et si toutes les épines avaient la rose avec
les copains, sa copine, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, de salut, trois au revoir et la lune.
Si tu chantes ta vie lente, filera comme file une étoile filante. La fortune, quelques thunes, et de quoi faire briller
cette lune où s'allume et consume la fortune. La fortune, quelques thunes, de salut, trois au revoir, la lune.
Cette lune où s'allume et consume la
La troisième toile d'entrée, là, c'est le château de Joux, 1958.
Oui, c'est ancien, mais enfin,
c'était la première fois qu'on le peignait.
Oh non, j'ai pas tellement. C'est, en plus, le château de Joux, pour moi, c'est un petit trésor imaginatif quand j'étais gamin. Pour moi, le château de Joux, c'était un château, c'était une forteresse, c'était les combats de cavaliers, c'était les guerres, c'était toutes sortes de choses étonnantes quand on est enfant. Et j'ai gardé toujours ce même attachement. Et comme peintre, je l'aime bien parce qu'il est situé dans une zone montagneuse où les saisons le marquent profondément. Et ça me plaît de retrouver des paysages qui me sont familiers. D'ailleurs, là, je les isole du reste.
Ouais,
je sacrifie le reste.
Il est sorti de son contexte. Le petit panneau, j'allais dire biographie, avec quelques photographies, vous avez fait ce choix.
Il fallait quand même que je mette une photo, on m'a demandé de mettre une ou deux photos de moi, alors je me suis présenté dans une photo faite par un de mes copains sur, en train de faire de la lithographie chez moi. Il y a une photo d'un autoportrait, d'un portrait de moi que j'ai fait jadis. Puis là j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, parce que...
Qui sont les deux personnes?
C'est Bernard Buffet, le peintre,
ah oui.
Et Annabelle, son épouse.
Ah oui,
et Buffet, c'est des amis très chers à moi, que j'ai beaucoup fréquentés, que j'aime beaucoup. Je suis resté une dizaine d'années à Paris, donc après mes études faites à Paris déjà. Et puis j'ai beaucoup hésité à revenir m'installer ici, à quitter Paris. Mais je crois que j'ai bien fait quand même.
Et vous aviez des liens personnels avec
lui? Oui, bien sûr, j'étais dans le même atelier que lui. Et je l'ai beaucoup, beaucoup vu, beaucoup fréquenté, on était très amis. Et donc en même temps je connaissais bien sa femme, quoi, parce qu'il avait épousé Annabelle.
Je te ferai la vie rouge, rose peu des madrigales, Pierrot. Je te ferai la vie douce, radis rose et fleurs des halles, Pierrot. Je te ferai la vie riche, des épouvantails à moineaux, des chambres bleues où l'ombre glisse comme de l'eau. Je te ferai la vie tendre que sert la biche à ses petits, Pierrot. Les espérances bleutées qui viennent tard dans la nuit, Pierrot. Je te ferai la vie riche, des épouvantails à moineaux, des chambres bleues où l'ombre glisse comme de l'eau.
Je te ferai la vie rouge, rose peu des madrigales, Pierrot. Je te ferai la vie douce, radis.
Je te ferai la vie riche, des épouvantails à moineaux, des chambres bleues où l'ombre glisse comme de l'eau. Je te ferai la vie tendre que sert la biche à ses petits, Pierrot. Les espérances bleutées qui viennent tard dans la nuit, Pierrot. Je te ferai la vie riche, des épouvantails à moineaux, des chambres bleues où l'ombre glisse comme de l'eau.
Thank you.
En fait, il y a quatre parties. Hein. Vous l'avez voulu comme ça, une partie paysage de neige.
Non, c'est tout. C'est, oui, il y a un peu d'exotisme, mais il y a surtout des paysages franc-comtois ou du Haut-Doubs, ouais. Parce que c'est ce qui m'a le plus inspiré dans ma vie. Et puis, ce sont les tableaux qui me restent encore chez moi, donc ils sont disponibles. Je ne les avais jamais réunis. C'est comme si je faisais une réunion de famille avec les anciens, les nouveaux, les derniers nés et tout ça.
Mais la thématique, comment vous avez voulu organiser une partie paysage de neige, une partie cité, une partie...
J'ai fait la liste de tout ce que j'avais disponible, éventuellement, et puis je les ai accrochés sans préférence topographique, si on peut dire, suivant comment ça se présente. Il y a des grandes toiles, elles sont longues, elles sont hautes, etc. Et je me suis accommodé de cette chapelle où j'expose depuis que j'ai l'âge de 20 ans ici. Alors.
Il y a une toile qui s'appelle Rocher de Picmette. Picmiette, c'est où?
Ce sont les rochers du Mont d'Or, le versant abrupt érodé. C'est les falaises, les falaises du Mont d'Or en plein hiver que je fréquente beaucoup parce que j'aime beaucoup randonner l'hiver dans mon pays de neige. Et puis le Mont d'Or, c'est un petit peu mon...
Vous y avez dormi accroché à ces rochers? Non, vous n'êtes pas amusé à ce genre de...
Non, j'ai fait d'escalade là-dedans. Escalade. Non, mais j'ai déjà bivouaqué dehors, au Mont d'Or, par plaisir, ouais. Par goût d'y être.
Et votre tableau Alpes et Jura, c'est une composition imaginaire, ça?
Non, pas du tout imaginaire. Hein? C'est extrêmement précis. Mais je me permets quand même de non pas de tricher ni de truquer, mais je donne le premier plan, c'est le lac de Saint-Pont, qui fait partie de mes pôles d'intérêt. Le deuxième plan, c'est le Mont d'Or. Et puis, ce qu'on voit du sommet du Mont d'Or, la chaîne des Alpes, elle est très, très loin. Elle est très belle, mais elle est un peu petite. Moi, je l'ai grossie par souci de raconter une histoire. Quoi. C'est-à-dire, le lac de Saint-Pont, qui a bercé ma jeunesse, le Mont d'Or, qui a été ma montagne favorite tant que j'ai fait du ski, et puis les Alpes que je connais bien aussi, où j'ai beaucoup pratiqué de sport, de promenade, de grandes expéditions. Et voilà.
Mais ce paysage-là, vous l'avez pas vu tel qu'il est représenté.
Non,
c'est une construction. Quoi.
J'ai des dessins très précis de tout ça. Ouais. Mais j'ai rehaussé les Alpes pour les faire monter. J'ai monté un peu le Mont d'Or. Si vous voulez, c'est comme on met le portrait d'un être cher, on le met dans un cadre supérieur. Quoi. Ouais. Alors, c'est des paysages qui me sont très chers.
La deuxième travée là, de la chapelle, on a quatre cités, dont Château-Chalon.
Château-Chalon, pour moi, c'est un des hauts lieux. Oui, c'est assez récent. J'ai commencé l'an dernier, mais je l'ai fini ces jours derniers. Si je peux même vous dire les choses. Ma dernière touche sur cette toile, c'est ces quelques petits points rouges.
Coquelicots.
Symbolisent des coquelicots. Je les ai fait la veille de mettre le tableau à sa place.
Ce qui manquait?
Ah, il manquait, je crois. Je trouvais que c'était un peu désolé au premier plan. C'est un petit sourire très discret et furtif sur un paysage que j'aime beaucoup. Quoi. C'est quand même chargé d'histoire et de bons souvenirs. J'aime beaucoup les paysages.
Là. Alors, vous n'avez pas fait une grande place au vignoble, là, on le devine à peine.
J'ai mis deux, trois signes qui semblent l'indiquer, mais je ne veux pas, ce n'est pas un tableau.
Ce n'est pas
un hommage rendu aux vignerons. J'ai quand même fait. Les vignes sont comme ça. Je les ai revues ces jours derniers. J'étais à Château-Chalon il y a quelques jours. J'ai presque regretté d'avoir déjà peint ce tableau. J'aurais dû le repeindre après parce que toutes les vignes étaient dorées. C'était extraordinaire.
C'est un autre moment.
Mais je ferai peut-être une autre toile.
Une autre toile. Mais oui, il y a Monet qui s'est amusé à ça.
Ah oui, bien sûr.
Ici, on est à Saint-Claude.
C'est pour des mêmes raisons. J'avais de bons amis à Saint-Claude. Pourquoi ai-je fait cette grande toile? J'avais fait des petites esquisses, des petites pochettes. Puis j'aime beaucoup cette ville. Elle est nichée au fond de sa vallée. Là. Elle mérite. Elle est un peu sertie. Je sais pas. Oui, oui. Ça me fait toujours penser à une pierre précieuse. Elle est sertie dans les montagnes, alors. C'est pas mal.
De l'autre côté, on a une vue de Besançon et puis Dole aussi.
Dole, parce que ça fait partie de mes pôles d'intérêt. Culturels, touristiques et régionaux. Quoi. C'est quand même des villes importantes. Sur le plan de l'histoire, Besançon, Dole, Saint-Claude-Moine, enfin c'est quand même une ville jurassienne aussi.
Jurassienne. la troisième partie dans la chapelle, donc ce sont des paysages divers.
Tout est mêlé, mais c'est...
Oui, ils ont mis des colonnes.
On dirait qu'elles sont faites exprès. Non, j'ai pas fait construire la chapelle pour mettre mes tableaux quand même.
Mais j'ai beaucoup... on a quatre paysages divers. Enfin, celui-là, le ciel d'orage, pas trop. Ça peut être, je ne sais pas quelle saison vous le situez.
Mais... Ah non, mais parce que je... Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde. Et j'en ai ramené d'excellents souvenirs sur les gens que j'ai rencontrés, des paysages assez fabuleux que j'ai vus. Mais quand même, j'ai pu découvrir dans beaucoup d'endroits l'ennui incommensurable des pays sans saison, où ils ont soi-disant une saison, les pays tropicaux ou équatoriaux certains, ont une saison, soi-disant une saison sèche, c'est même pas évident du tout. Des fois il pleut pendant deux ans, des fois il pleut plus qu'il ne devrait, mais c'est surtout l'absence de saison. Moi, je sais pas, tout le monde doit être comme moi, franchement, on est bercé par les saisons, quoi. On a en réalité plusieurs saisons différentes, on a plus que quatre d'ailleurs. Avec un paysage changeant, c'est extraordinaire. Les gens ne s'imaginent pas, ils ont toujours le même paysage toute leur vie. Et quand je discute avec... Ça m'est arrivé souvent en Afrique noire, surtout, de discuter avec des villageois, ceux qui parlent un peu français, ou moi je baragouine un peu le swahili. Alors, leur discussion, c'est quand j'essayais de leur expliquer chez moi comment c'était, et les saisons, ils ne comprenaient pas. Je leur dis chez moi un jour, les feuilles des arbres, elles tombent. Mais il me disait, non, bon, on a tout, qu'est-ce que tu dis, les feuilles des arbres, il y en a une qui tombe et une qui pousse. Non, chez moi, toutes les feuilles des arbres, de tous les arbres tombent. Alors il me dit, il est fou, quoi. Alors, il me dit, mais comment ça se fait, les arbres sont morts, alors tout est mort, tout le monde est mort. Je dis, non, les arbres ne sont pas morts, chez moi, ils dorment. Ils dorment, parce qu'après, il y aura de la neige, c'est encore difficile à expliquer. Je passe un peu pour un timbré, quoi, là-bas. Mais en fait, ça ne me gêne pas de passer pour un fou,
saisons. saisons. Je ne me lasse pas d'en distiller les fleurs, d'en jalouser chaque heure, d'en mourir sans raison. Oh, les saisons.
Dans Ciel d'orage, vous avez délibérément, enfin presque éliminé le paysage, qu'il occupe un petit 20% de la toile.
Quand on regarde le ciel, on fait pas attention au paysage. Quand on regarde, vous comme moi, on regarde dehors, on n'analyse pas parce que la démarche visuelle qu'on fait, mais si on regarde le ciel, le paysage il part en dessous, il compte beaucoup, beaucoup quoi. Et alors j'aime beaucoup les nuages par exemple.
Oui, là, il y a un travail formidable sur les couleurs du ciel.
Les couleurs, c'est facile. Si vous regardez un jour par grand ciel bleu, vous avez l'impression que le ciel est bleu uniforme. Si vous le regardez par rapport à une feuille de papier, le dessus est bleu foncé, et plus on descend vers le lointain, plus ça devient un bleu très très clair, jusqu'à l'horizon. Et il est derrière. Quand les nuages viennent, ils sont devant, mais il y a toujours ces mêmes valeurs. Ce qui fait fuir l'horizon en bas et ce qui rapproche un peu, qui fait passer au-dessus le ciel. Quoi. C'est des tours de main de peintres qu'on distingue très bien quand on étudie les grands peintres. Quand on regarde des reproductions, on voit très bien qu'il y a quand même c'est quand même fait à base d'observation, quand même, la peinture. C'est un art d'illusion, mais c'est fait à partir d'une observation des choses vraies. Alors c'est pourquoi je trouve, moi personnellement, je ne suis pas très attiré par l'abstrait, parce qu'on a le plaisir virtuel du geste, de la matière, des traits, des combinaisons. Mais moi je suis très attaché au paysage, disons. Je sais pas, j'ai une hérédité de paysan, quoi. La terre pour moi c'est même s'il y a un mètre de neige dessus, ça reste quand même ma patrie.
Et vos ciels, au fil des tableaux, ils sont à peine croyables parce qu'il y a toutes les couleurs.
Ah oui,
il y en a des bruns, il y en a des bleus, il y en a des gris.
Dans le ciel, il y a mille nuances au cours de l'année, au cours des heures de la journée, au cours des saisons. On peut en jouer comme on veut. On ne peut pas se permettre, par exemple, de supprimer des signes qui sont clairs. En réalité, par exemple, moi je fais un paysage comme vous voyez là, Bougeon. Mmh. Ce qui m'a frappé à Bougeon, c'est que cette chapelle est rouge. La petite église de Bougeon, dans ce paysage de neige, ça fait une tache rouge sublime. Et même un jour, j'étais retourné, j'y suis allé souvent, quand j'ai fait beaucoup de tableaux là-bas. Et un jour d'automne ou de printemps, je ne me souviens plus, j'ai vu des ouvriers qui travaillaient à démonter le clocher, c'est-à-dire ils allaient refaire la façade en la crépissant en béton normal, en ciment. Je suis allé voir le maire, j'ai arrêté tout de suite, quoi. Faut garder les briques rouges de le clocher, c'est un signe dans le paysage. C'est un signe unique. T'as un village qu'on reconnaît entre mille parce qu'il a un clocher rouge, quoi.
Et finalement, il est resté rouge.
Oui.
Vous avez eu quatre coups.
J'ai fait faire une économie raisonnable à la commune. On a gardé les styles rouges.
L'entrepreneur a dû vous en vouloir.
Ah, ça, c'est des villages tout près de chez moi que je connais parfaitement. Mais c'est pareil, j'y mets toujours la route. J'aime beaucoup faire des paysages de neige avec des routes, parce que la route est déneigée, mais elle n'est pas de la même couleur que la neige. Et puis c'est quand même le chemin des hommes, quoi. Dans un grand paysage désolé, c'est pas la Sibérie, c'est en France, près de la frontière suisse, un des petits pays où il faut se battre contre la neige qui envahit tout, quoi, l'hiver.
Mais vous avez acquis une maîtrise dans la restitution des routes enneigées qui
sont égales. Oui, parce que je les ai pratiquées. Quand j'en ai pas ici, mais j'ai fait des écoles avec des enfants dans la neige, beaucoup qui vont à l'école. Je garde un souvenir impérissable de mes jeunes années où je partais à l'école à pied, il était tombé 50 cm de neige, moi je mesurais à peine 80 cm de haut. Pour moi, c'était la patte fabuleuse, quoi. C'était la joie des promenades, des boules de neige, des bonhommes, on peut tout en faire. Quand on est gosse, on en mange, on fait des bonhommes, on se fout des boules de neige les uns sur les autres. C'est une patte magique. Et pour l'enfant, c'est merveilleux, c'est éblouissant. Évidemment, il ne faut pas aller la voir dans une grande ville. D'ailleurs, j'ai remarqué toujours que mes compatriotes, les agriculteurs, les paysans, les forestiers, tout ça, ils aiment beaucoup, ils aiment bien, ils supportent bien l'hiver, et ils aiment ces pays où il y a des saisons. Et ils ont toujours les mêmes réflexions, il faut que les saisons se fassent. Pour que tout soit en équilibre, il faut qu'il y ait beaucoup de neige, il faut qu'il y ait beaucoup de feuilles au printemps, il faut qu'il y ait beaucoup d'humus qui tombe par terre à l'automne, il faut qu'il pleuve l'été, c'est extraordinaire, c'est bien.
On arrive maintenant dans le cœur de la chapelle où vous avez réuni six toiles.
Non, j'ai pas réuni des choses spécialement, mais enfin c'est un peu des choses que j'aime bien, quoi. Curieusement, j'ai un gisant qui peut étonner les gens, je ne mets pas d'explication.
Oui,
là.
Oui, mais enfin, on connaît un petit peu votre vie...
Oui, c'est ça, j'ai perdu un fils accidentellement en Équateur, en Amérique du Sud, il s'est noyé... dans une très belle aventure, et là, il n'en est pas sorti vivant. Et ça a été terrible pour moi, parce qu'on m'a téléphoné de Quito, l'ambassadeur, on me dit, vous savez, les ambassadeurs, ils font leur boulot, quoi. Ils vous téléphonent, ils disent, écoutez, monsieur, c'est vous, monsieur Bichet, j'ai une mauvaise nouvelle, votre fils est mort, il s'est noyé au cours d'une expédition sur une rivière sauvage, là, en Quito. J'ai pas mis longtemps à deviner, mais je peux rien faire, mon fils était mort. C'est un petit hommage personnel que j'ai voulu lui rendre quelques années après. J'ai fait un gisant avec le paysage d'Amérique du Sud, les Andes. Et puis, comme il était étudiant, assez brillant, j'ai mis un hommage respectueux des bouquins devant ce jeune gars étendu, quoi. Enfin, en principe, c'était fait pour un usage intimiste, ça.
Oui,
mais pourquoi pas? Parce que beaucoup il avait beaucoup d'amis ici qui le connaissent et qui ont été très contents que je mette cette toile.
Absolument, puis ça, comment dire...
C'est pas d'exhibitionnisme morbide.
Non, mais en même temps, quand j'ai découvert l'exposition, que j'ai vu cette toile, j'ai pensé que c'était un peu toute l'exposition qui était une espèce d'hommage à lui.
C'est ça, il dessinait beaucoup, il travaillait bien, il était géologue bien... J'ai mis un petit oiseau, parce qu'il avait la passion des oiseaux, j'ai mis un petit oiseau qui repose, qui est debout près de lui. Voilà, c'est sentimental.
Oui. Ça. Oui.
La mer sur le rocher, le vent sur le clocher, le vase renversé, la lampe prise pour cible, le fil de la pensée, la phrase inachevée, la voix désespérée et la corde sensible, tout se brise, tout se brise. Le marbre profané, la tombe délaissée, l'os du supplicié, l'arme dans la plaie vive, les tuiles envolées, et l'amour déchiré, l'arbre déraciné, la barque à la dérive, tout se brise, nos plus belles pensées, nos plus belles idées, rêves d'humanité et nos voix insoumises. Le chant d'égalité et de fraternité, le cri du révolté, cœur nu sous la chemise, tout se brise, tout se brise. Notre orgueil insensé, nos armures déglinguées, la mort tant redoutée qui nous prend par surprise, nos crânes désertés, nos combats oubliés, nos passions dénouées, un jour tout s'égalise, douce brise. Douce brise.
Celle d'à côté, vous l'avez mis en relation, non? Parce que j'ai perçu une relation.
Mais si vous voulez, bon, les peintres grecs, sur les vases, ils faisaient des histoires de mythologie, quoi. Ouais. Alors, il y a aussi bien, je ne sais pas, l'enlèvement d'Ulysse, des déesses et des trucs comme ça. Moi, mon épopée, c'est l'épopée des petites gens qui luttent contre un hiver implacable, quoi. Alors, ils luttent avec quoi? Ce n'est pas des galères romaines, ça ressemble. C'est les chasse-neige qui se trouvent être... Moi, j'ai vu des chasse-neige bloqués complètement par la neige. Et c'est encore la pelle qui sert à déneiger les chasse-neige.
C'est peut-être plus vrai aujourd'hui, avec les fraises, ils passent partout.
Oui, ils passent un peu plus facilement, mais quand même, les gros hivers, on aura toujours. Ça fait partie de la vie quotidienne, alors. Mais c'est en même temps une aventure exotique. D'ailleurs, si on lui donne un cadre comme ça, ça fait une espèce d'aventure de... Je ne sais pas, d'explorateur au pôle Nord. Et on a ça à portée de la main.
De l'autre côté, ben, c'est toujours les travailleurs de la neige, oui. Avec ces personnages, enfin, typiquement les vôtres. Quoi.
Je ne sais pas si c'est les miens, mais ils sont souvent comme ça.
Ils sont massifs, même les gosses, hein, vous les faites massifs.
Ils ont trois vestes, plus les unes sur les autres, des pullovers, des bottes. C'est pourquoi ça leur donne un côté massif.
Et celui-là est assez ancien, 59, hein, donc
c'est le
début de votre...
Oui, mais j'arrive pas bien à discerner si j'ai évolué ou pas.
Ouais. Vous n'avez pas... Enfin, moi, à partir de cette période de 59-60, je ne trouve pas qu'il y a d'évolution dans votre graphisme.
Ça me permet de...
Vous non plus.
Ça me permet de ne pas tirer les critiques qu'on voit si souvent de... Père Bertinale subit l'influence de l'art abstrait, subit l'influence des impressionnistes. Moi, j'ai été influencé par la réalité.
Et là, on est face à une toile ancienne aussi. Vous avez eu 49, elle est datée. Vous avez eu une série comme ça de...
Ben non, j'ai essayé de fixer des espèces de scènes mythologiques universelles, quoi.
Oui, de les inscrire dans la région franco-comtoise.
Voilà, alors, tous les peintres français, on ne touche pas à une adoration des bergers. Moi, je ne suis pas plus croyant qu'un autre, plutôt moi. Mais enfin, ça m'a fait plaisir de faire des bergers assis, et puis une vierge en pullover rose.
Oui, on se dit qu'elle était réchauffée, la vierge.
Mais peu importe, miracle. Miracle, miracle.
Et puis, il y a cette toile sur une partie de votre activité.
Je connais, j'ai tellement vu des volcans autour du monde, avec mon ami Taziev, que l'Etna était... J'étais tellement allé souvent avec Taziev et tout ça, puis j'ai vécu des moments un peu délicats, c'est-à-dire que les touristes ne pouvaient plus monter, on n'en voyait plus personne, nous on avait une autorisation spéciale. Alors on avait nos copains, les volcanologues, avec leurs costumes en aluminium, et puis on observait, c'est une bouche toute neuve, elle s'était ouverte quelques jours auparavant, très violemment, et alors on est resté auprès de cette bouche, très près, pour éviter des portages trop longs. Et même les tentes qu'on voit là, les tentes étaient en fibre de verre, c'était pas du coton.
Ah oui.
Alors, c'était un peu la bouche des enfers, mais ça si on se familiarise avec les événements volcaniques, ils perdent de l'importance au cours des fils, au fil des jours. Ça devient un phénomène naturel et intéressant et beau, parce que comme disait mon ami Taziev, écoute, on est quand même bien installé et éclairé et chauffé à la fois quand même pour pas un rond.
Hein. Ouais. Et le danger, vous ne l'oubliez pas à ce moment-là?
Je l'oublie pas, on fait toujours attention. La preuve, c'est qu'on est revenu tout ça et qu'on n'a jamais eu dans l'équipe de Sazieff des pertes. On en a vu beaucoup de catastrophes avec des gens dans tous les pays qu'on avait visités et dans tous les volcans. Mais grâce à Dieu...
Peut-être un peu de chance quand même, non?
Peut-être, évidemment. Une colère soudaine aurait pu transformer cette petite expédition-là, un peu confidentielle, par une catastrophe que ça aurait pu arriver. Mais enfin, faut avoir foi dans son étoile.
Voilà, on a fait un peu le tour de cette exposition. Qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant, en dehors de durée, comme vous m'avez déjà dit? Vous êtes sur des...
Écoutez, quand je me réveille vivant le matin, je remercie le ciel. Et puis, j'ai essayé de continuer, je travaille. Pour le moment, je suis aujourd'hui particulièrement dans une situation toujours délicate pour moi. C'est quand j'ai une grande toile, je commence une grande toile, peut-être encore plus grande que celle qui est là. Et quand je dis « je commence », elle est vierge. Elle est préparée, l'enduit, comme je veux, mais il n'y a pas encore un trait ni rien dessus. Je la regarde avec terreur.
Ton ombre est là, sur ma table, et je ne saurais te dire comment le soleil factice des lampes s'en arrange. Je sais que tu es là, que tu ne m'as jamais quitté, jamais. Je t'ai dans moi, au profond, dans le sang, et tu cours dans mes veines. Tu passes dans mon cœur, et tu te purifies dans mes poumons. Je t'ai, je te bois. Je te vis, je t'en veux, et c'est bien. Je t'apporte ce soir mon enfant de longtemps, celui que je me suis fait tout seul, qui me ressemble. Qui te ressemble, qui sort de ton ventre, qui est dans ma tête. Tu es la sœur, la fille, la compagne et la poule de ce Dieu tout brûlant qui éclaire nos nuits depuis que nous faisons nos nuits. Je t'aime. Je t'aime. Il me semble qu'on m'a tiré de toi et qu'on t'a sorti de moi. Quand tu parles, je m'en sente. Quand je sente, je te parle. Nous venons d'ailleurs tous les deux, personne ne le sait. Quand je mourrai, tu ne pourras plus vivre que dans l'alarme. Tu n'auras plus un moment. Tu seras mienne, par-delà le chemin qui nous séparera. Et je t'appellerai, et tu viendras. Si tu mourrais, tu m'appellerais. Je suis la vie pour toi. La peine,
et la joie et la mort. Je meurs dans toi, et nos morts rassemblés feront une nouvelle vie unique, comme si deux étoiles se rencontraient, comme si elles devaient le faire de toute éternité, comme si elles se collaient pour jouir à jamais. Ce que tu fais, c'est bien, puisque tu m'aimes. Ce que je fais, c'est bien, puisque je t'aime. À ce jour, à cette heure, à toujours, mon amour, mon amour.
Vous avez tenu aussi à présenter quelques-uns de vos centaines ou milliers de dessins, je ne sais pas, c'est peut-être plus en milliers qu'en centaines,
ça se compte. Mais c'est-à-dire, c'est une façon de travailler que j'ai été un peu étonnante. Quand j'étais au Japon, un jour, je cherchais à dessiner des paysages japonais, et je vais dans une boutique japonaise, et je leur demande, dans mon mauvais anglais ou japonais, je leur demande s'ils ne voulaient pas me vendre des carnets pour dessiner. Pour eux, écrire ou dessiner, c'est un peu la même orthographe en japonais. Alors, à mon étonnement, ils m'ont proposé des carnets impraticables, des carnets en accordéon, comme ça, allongés, parce qu'eux, ils écrivent verticaux là-dessus. Et donc, il n'y a pas de passe, puisque c'est des... Alors, j'avais acheté une dizaine de carnets pendant mon séjour pour dessiner des paysages japonais. Et j'ai découvert que c'était miraculeux, parce que, d'une part... Moi, je dessine pas avec un crayon ni une gomme, je dessine directement avec un marqueur fin, ou avec de l'encre de chine, ou des choses comme ça. Je trace directement mes dessins d'après nature, dehors. Et donc, ce papier ne me convenait pas, parce que si mon trait s'arrêtait, ça faisait une tache noire, sa ponce absorbait, l'encre absorbait. Et puis, deuxièmement, je pouvais pas rater un dessin, puisque je fais pas d'essai, rien, je dessine directement au marqueur, c'est fini, c'est permanent, c'est comme ça. Et je peux pas enlever la page, je peux pas, si je rate un dessin, je peux pas enlever la page. Je suis condamné à réussir tous mes dessins et à conserver tous mes calepins. Alors, ça me rend assez optimiste, tu vois. J'ai pas le droit de rater, alors je ne rate pas. Ça, c'est des dessins de ces jours derniers, je pense. J'ai toujours la date qui est marquée quelque part. Oui,
février 2004.
Alors, dans une journée, des fois, je me promène en voiture ou des fois, je rate à pied et je fais 5, 6, 7, 8 dessins.
Il vous faut combien de temps pour en faire un?
Ça dépend. Des fois, ça me prend 10 minutes, des fois, ça me prend 25 minutes, des fois.
Oui, quand même.
Mais rarement plus, quoi. Des fois, c'est facile. S'il y a presque peu de choses à dessiner. J'ai dû mettre une seconde pour faire les nuages, là. Même pas. Long, quoi. C'est mon métier. Donc, faut être visuel et pas être amputé des mains, voilà.
Bien, Pierre Bichet, je vous remercie. Rendez-vous pour une prochaine, peut-être pas exposition aussi abondante que
mais
celle-là,
mais pour quelques temps. Comme d'habitude, vous savez, on se rencontre avec plaisir. Chez moi, il y a toujours quelque chose à voir. Voilà.
Merci.
Juste avant de pleuvoir, la montagne est si près qu'on pourrait la toucher en lançant au hasard la main vers le rocher, cueillir des forêts juste avant de pleuvoir, la montagne est en grès, le lac devient gris de la couleur du ciel, et l'orage étincelle, alors voilà la pluie, et ces torrents de boue ne sont plus des ruisseaux, et j'habite un pays où l'orage est si beau. Puis le cri d'un moineau qui lance son appel à la vie de reprendre au soleil d'être chaud, et l'on peut réentendre l'eau du toit qui ruisselle, la course d'un blaireau et des battements d'ailes. L'homme sort de chez lui où il tairait sa peur, mais cette noble peur d'avoir été petit durant le court instant quand l'éclair aveuglait. Et j'habite un pays qui ne pleure jamais. Puis le soir rosie le gris bleu des rochers, et la nuit va surprendre le chat dans la prairie. La brume va descendre en buée de rosée, l'herbe noire de la nuit, et les bruits vont changer, les montagnes dessinent sur le ciel un cratère pour endormir la terre et pour compter les cimes. Du sommet d'un grand chêne, un hibou parle au vent, et j'habite un pays qui s'endort doucement. Sans grimper de sommet, on ne voit pas très loin, car la vue est toujours coupée par les forêts. Le soleil en un jour fait si peu de chemin, sorti de la forêt, il dort dans les sapins, et tout là-bas derrière sont encore des amis. La montagne est abri et surtout pas frontière, en passant quelques cols, les gens se serrent la main, et j'habite un pays qui prépare demain. Le ruisseau ne prétend pas être une rivière, et le blé s'empanache quand l'espace est plus grand, mais la Savoie se fâche quand au froid de l'hiver la neige noire s'y déprend d'une valeur boursière. Ne faites pas cela, messieurs, car la nature ne pardonnera pas cette cinglante injure. La neige n'est-elle pas synonyme d'enfant? Et j'habite un pays qui veut rester vivant.
Ainsi se termine cette émission consacrée à un hommage au peintre Pierre Bichet, réalisé à partir du dernier entretien qu'il a bien voulu nous accorder en 2004 en présentant cette exposition qui allait devenir son ultime. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes: la chanson « Liberté » de Luc Roman qu'il interprétait lui-même, puis c'était la chanson de Léo Ferré, Paroles et musique, La Fortune, dans la version de Serge et Sonia, un enregistrement de mauvaise qualité, mais une très grande rareté discographique. Puis, après que Pierre Bichet a évoqué le couple Buffet, vous avez entendu Annabelle Buffet, qui, sur une musique de Jean Morlier et sur ses paroles, interprétait la chanson Pierrot. Ensuite, c'est Jean Ferrat qui interprétait sa composition paroles et musique Les Saisons. Puis Pierre Delorme qui interprétait sa chanson paroles et musique, bien sûr, Tout se brise. Enfin, la lettre de Léo Ferré qu'il interprétait lui-même, et Pierre Tournière sa chanson Un pays. Bonsoir. Thank you.
Thank you.